Christ est ressuscité. C'est la salutation traditionnelle des chrétiens d'Orient. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? En vérité, il est ressuscité. Ça vous fait penser à quoi, vous? C'est quoi? La résurrection ou la chasse aux œufs? Moi, j'ai fait une petite expérience. J'ai demandé à M. Google Pâques. Et il est sorti des pages et des pages sur les œufs en chocolat, les lapins en chocolat, les poules en chocolat, que du chocolat. Et pour le monde, peut-être que Pâques, c'est plutôt ça. Pour nous, Pâques, c'est la crucifixion et la résurrection. Pour nous, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Pour nous, notre Pâques, c'est Christ, comme nous dit Paul. Christ, il est mort sur la croix. Bien plus, il est ressuscité. Sa résurrection, c'est notre salut. C'est la garantie de notre propre résurrection. Résurrection à la fois spirituelle et aussi physique au dernier jour. Nous étions morts dans les ténèbres, mais la puissance de la résurrection agit en nous. Et comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, nous sommes sortis de cette vie de ténèbres pour une vie de lumière. Jésus, c'est la porte qui nous a fait passer de la captivité à la liberté, de la mort à la vie. Christ est ma Pâque. Ce matin, on peut dire que le sang de la croix est notre victoire. La Bible, en parlant du prince de ce monde, le tentateur, le prince des ténèbres, dit que nos frères l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est dans l'Apocalypse. Le sang de Jésus est notre victoire. Le peuple d'Israël, en ce jour de Pessah, la première Pâque, a mis le sang de l'agneau sur les linteaux de ses portes. Et lorsque l'exterminateur est arrivé de s'en rendre dans ses maisons et qu'il a vu le sang, il est passé au-dessus, il est passé par-dessus, il a poursuivi son chemin. Pessah, c'est de là que vient notre Pâque, passé par-dessus. La mort et les ténèbres n'ont pas pu toucher les enfants d'Israël parce qu'il y avait la marque du sang. Pour tous qui êtes là, toi qui écoutes ce matin, as-tu mis la marque du sang de l'agneau sur les portes de ton cœur? Si tu les as mis quand le diable vient, quand le destructeur passe et rôde, il voit la marque du sang de Jésus et il est obligé de passer par-dessus. Il ne pourra pas te toucher parce que la puissance du sang de Jésus est bien plus forte que toutes les puissances de l'enfer. C'est tout cela, Pâques. Alors, sur ce sujet de la Pâque, il y aurait beaucoup et beaucoup de choses à dire. Et lorsque je pensais à cette matinée, à ce message, je me disais que pour ce matin, on va en rester à quelques versets que j'ai retenus tout particulièrement sur la signification de Pâques pour nous. D'abord, dans l'épître de Pierre, la première, au chapitre 3 et au verset 21, cette eau était la figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures ou du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Puis Colossiens 2, verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. et puis 2 Corinthiens 4, 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Et puis j'ai réfléchi à la façon dont nous avons de vivre Pâques. Et j'ai repris Exode 12 au verset 11. Quand vous le mangerez, c'est de l'agneau pascal dont il est question, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et ce qui m'a interpellé, c'est vous la mangerez à la hâte. Pourquoi la manger à la hâte? Pour les Israélites, à l'époque, c'était qu'ils allaient partir. Et pour nous, c'est peut-être un peu pareil. Le départ est imminent. Il faut être prêt à partir. Et la pensée que j'ai sur mon cœur ce matin, que je voudrais partager avec vous, sommes-nous prêts à partir? Pour nous, le départ est peut-être imminent. Nous ne savons pas quel est le jour, l'heure que Dieu a fixé de sa propre initiative, de sa propre autorité. L'important pour nous, c'est d'être prêts. Alors, sommes-nous prêts ce matin? Vous la mangerez à la hâte, dit l'Écriture, c'est la Pâque de l'Éternel. Il y a quelques instants, nous avons pris le pain et le vin, ce qui nous rappelle cette Pâque, ce moment où Jésus-Christ a donné sa vie, où il se offert en sacrifice, qui nous rappelle sa mort, mais aussi sa résurrection. L'une des choses dont nous devrions nous rappeler lorsque nous célébrons la scène, la Pâque du Seigneur, Christ, notre Pâque, c'est que le départ est imminent. Et si c'est le cas, alors la question que je dois me poser, est-ce que je suis prêt à partir? Celle que je dois vous poser, est-ce que vous êtes prêt à partir? La bonne attitude en relation avec la Pâque, c'est celle-là, être prêt. L'Égypte, Mistraïm, en hébreu, dans l'Ancien Testament, qui veut dire « lieu d'oppression », n'est qu'un passage. Mais certains de ces Israélites étaient bien installés en Égypte. Et malgré la dure servitude, tous n'avaient pas envie de partir. Ils avaient leurs habitudes, leur vie, ils avaient construit leur maison, ils s'étaient installés dans le pays et n'avaient pas forcément envie de le quitter. Ils avaient là, nous dit l'Écriture aussi, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, tout ça. Nous aussi, nous avons tout ça. L'être humain a une tendance à s'installer là où il est, même si les conditions de vie sont difficiles. En Laponie, tout au nord de la Finlande, là où il fait nuit 6 mois par an, et qu'alors la température moyenne est de l'ordre de moins 30, vivent encore des lapons qui, pour rien au monde, ne quitteraient ce pays qui est le leur. Moi, je pense que dans ces conditions, je ferais une dépression si je ne voyais pas le soleil pendant 6 mois, et avec une température à geler sur pied. Et les lapons s'y trouvent bien. Ils y ont leurs racines, et parfois nous aussi, on s'installe dans ce monde qui n'est pas idyllique. On y pousse des racines en oubliant que nous sommes des voyageurs, que des voyageurs qui s'attardent. Il faut se préparer à partir. Notre destination, ce n'est pas ici-bas. Et à l'époque, l'Égypte va être frappée d'un certain nombre de plaies, de fléaux, qui ont fait de grands dégâts. Et en pensant à ces plaies et ces fléaux en Égypte, comment ne pas penser à notre époque? À ce qu'a connu notre monde le siècle passé, les guerres mondiales, le nazisme, le fascisme, le communisme, la Shoah, les génocides des Arméniens, ceux du Rwanda, du Cambodge, les dictatures dans différents pays d'Amérique du Sud qui ensemble ont fait des millions de morts, des centaines de millions de morts. Le siècle passé a été le plus meurtrier de toute l'histoire des hommes. Et les historiens pensent qu'il y a eu plus de morts violentes dans ce siècle-là que dans tous les siècles précédents. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y en a eu beaucoup en tout cas. Jamais autant de fléaux, jamais autant de grands, sans parler des grandes épidémies, la grippe espagnole, le sida, qui ont fait des millions de morts aussi dans le monde, la Covid maintenant, puis les catastrophes climatiques dont nous sommes les témoins par les médias, les raz de marée, les tsunamis, les incendies, les tremblements de terre. Et sans parler de la violence qui s'installe partout dans nos sociétés, le terrorisme, la corruption morale qui déferle comme une vague monstrueuse. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit ? Il nous dit, lorsque ces choses commenceront à arriver, soyez saisis de peur, de tremblement, cachez-vous dans un trou. Il ne dit pas ça. Jésus nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il parle de délivrance ? Il veut dire que le monde va changer, qu'il va s'améliorer ? Pas du tout. Quand toutes ces choses vont arriver, alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est ça notre délivrance. Il revient bientôt. L'Église va être enlevée. Je ne sais pas si vous y croyez. Moi, j'y crois, c'est écrit. Et quand ça va arriver en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Quand le jour J, marqué au calendrier de Dieu, notre délivrance sonnera, nous serons enlevés. Est-ce qu'on est prêt à partir ? Je ne vous cacherai pas que, pour ma part, il y a des tas de choses qui me retiennent ici. Dans l'Ancien Testament, Daniel écrivait « Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, scelle le livre jusqu'au fin des temps. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Le prophète Daniel a dit que l'un des signes de la fin serait que la connaissance augmenterait. Il n'y a jamais eu autant de connaissances qu'aujourd'hui dans tous les domaines, intellectuels, scientifiques. Mais Daniel ne parlait pas de ces connaissances-là, mais de connaissances spirituelles. Et jamais il n'y a eu plus de connaissances spirituelles qu'aujourd'hui. Jamais autant de facilité d'accès à la Bible comme aujourd'hui. Je prendrai juste un exemple qui n'est pas si vieux que ça. Enfin, pas si vieux que ça, ça dépend pour qui. Jacqueline était encore jeune fille, elle devait avoir une douzaine d'années. Et à une de ses camarades, elle a donné un Nouveau Testament. Et la camarade lui a rendu quelques jours plus tard, le curé lui ayant interdit de lire ce livre hérétique. C'est pas si vieux que l'Église catholique interdisait de lire la Bible. Un demi-siècle, c'est quoi un demi-siècle ? Aujourd'hui, la Bible est répandue comme elle n'a jamais été dans le monde. C'est le livre le plus répandu au monde. Avant le petit livre rouge de Mao, avant le Coran, tout le monde peut avoir accès à la Bible et à toutes sortes de littérature chrétienne, aussi bien imprimé que sur Internet, sur vos téléphones. On peut avoir ça partout. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de connaissances qu'aujourd'hui. Et c'est un des signes de la fin. Un autre signe, Jésus dit, l'iniquité va tellement se répandre dans le monde que la charité du plus grand nombre va se refroidir. la charité, le zèle que l'on a pour les choses de Dieu, la Bible dit que ce zèle va se refroidir dans les églises aussi, à cause de l'iniquité qui va être omniprésente. L'iniquité omniprésente, elle rentre partout. Par le biais des médias, elle rentre dans toutes les familles, dans les maisons. Jésus dit que l'amour va se refroidir. Mais pas le nôtre. Hein. Notre amour brûle-t-il toujours? Sommes-nous prêts à partir? Ce matin de Pâques, il y a trois choses qu'il faut retenir. Vous aurez vos reins saints, vous aurez vos souliers aux pieds, vous aurez votre bâton à la main. Je voudrais rapidement voir ces trois petites choses pour savoir si on est prêt à partir ce matin. Alors, à notre époque, ça nous parle peut-être moins parce qu'on ne voyage quand même pas beaucoup à pied, surtout pour les longs voyages. Mais à l'époque où ça a été écrit, les gens partaient à pied et pour de longs voyages, des mois souvent. Vous aurez vos reins saints. Les reins sont le symbole de la force, du service. Par exemple, le service dans le tabernacle ne pouvait se faire que les reins saints. Les lévites, les sacrificateurs, devaient se ceindre les reins pour servir. On voit ça dans le Lévitique. Moïse fit approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures. Autrefois, et il n'y a pas si longtemps encore, les hommes à la campagne, surtout, avaient toujours une ceinture de flanelle autour des reins. Avoir les reins sains, c'était garder, maintenir sa force et même l'amplifier. Et pour ceux qui ont mal aux reins, je ne sais pas s'il y en a ici, moi en tout cas, ça m'arrive souvent, il est conseillé de porter une ceinture lorsqu'on fait des efforts. Jésus a repris cette parole dans l'évangile de Luc, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Quel est le contexte? Le contexte, c'est le retour du maître, celui qu'on attend. Non, le maître est parti et il dit, heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de faire une bonne sieste quand il arrivera, en train de se reposer péniblement, de se détendre. Est-ce qu'il dit ça? Non, hein. Jésus dit, heureux le serviteur que le maître trouvera vigilant, éveillé. Oui, heureux sera un tel homme, et pour cela, il faut que ses reins soient sains. Vous savez, pour ne pas s'endormir dans la nuit, le mieux c'est de s'occuper. Vous avez remarqué à quelle heure est rentré le maître? Minuit, une heure, deux heures? 3 heures. Vous imaginez attendre dans la nuit comme ça, simplement sans rien faire? Je ne sais pas, les plus anciens ont fait le service militaire. Quand on est de garde la nuit, qu'est-ce que c'est difficile de ne pas dormir? Le soleil vient naturellement. Et pour ne pas s'endormir, il faut faire quelque chose, il faut travailler, s'occuper, servir. La force du croyant, du chrétien, c'est de servir son Seigneur. C'est d'être occupé à son service. S'il revenait aujourd'hui, nous trouverait-il en train de le servir? Je vous laisse cette question. Ensuite, il faut avoir ses souliers aux pieds. Pour une bonne marche, il faut des bons souliers pour aller loin, pour avancer. Et c'est aussi un symbole de liberté parce qu'autrefois, à l'époque, les esclaves ne portaient pas de souliers. Les chemins étaient rocailleux et pieds nus, on ne va pas forcément très loin. Les hommes libres avaient des souliers, pas les esclaves. Et ça me fait penser à l'histoire du fils prodigue, vous savez, dans Luc. Quand il arrive à la maison, le Père dit, mettez-lui une robe, un anneau et des souliers aux pieds. Quand il allait quitter la maison, il devait bien en avoir des souliers. Quand il revient, il les a plus, il les a perdus, il revient sans. Il est parti libre de la maison de son père. Quand il revient, il est comme un esclave. Vous voyez, parfois, on peut s'éloigner de Dieu parce qu'on pense qu'on sera plus libre. Dans l'Église, je ne suis pas libre. La Bible, l'Évangile, la vie spirituelle, c'est une contrainte. On s'éloigne de Dieu et on tombe dans les pièges du diable, dans nos faiblesses, et il nous ligote, il nous enlève nos souliers. Ce n'est qu'en Jésus que nous sommes réellement libres. Peut-être ce matin, tu as besoin de revenir dans la présence du Père. Tu as peut-être de te repentir comme l'a fait ce garçon quand il a dit « Je reviendrai chez mon Père, je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il s'est humilié devant son Père lui a rendu ses chaussures. Il l'a rétabli dans sa liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si le Seigneur donnait le signal de départ aujourd'hui, sommes-nous libres de toute entrave ou bien le décollage serait difficile parce qu'il y a encore trop de choses qui nous attachent à la terre. Que ce matin, les liens, les amarres soient brisés, que nous soyons prêts à partir. Heureux ce serviteur que le Maître, à son retour, trouvera habillé. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer la maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. À l'heure, vous n'y penserez pas. Et puis enfin, la troisième recommandation, vous aurez votre bâton à la main. Le bâton, ça me parle de foi. Le bâton, c'est sur quoi on s'appuie. Vous vous souvenez quand Jésus a envoyé les disciples deux par deux, il leur a dit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie. Le bâton, je pense que c'est vraiment l'image de la foi. Et la foi, c'est ce qui sera important lorsque le Fils de Dieu reviendra. Mais quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, de la foi, il y en a sur la terre. Allez au mur des Lamentations, vous y trouverez de la foi. Allez au bord du Gange, vous y trouverez de la foi. Allez à la Mecque, vous y trouverez de la foi. Allez même à Wall Street, vous y trouverez de la foi. Seulement, il y a une différence entre de la foi et la foi. La foi dont Jésus-Christ est l'objet. La foi qui est nourrie par la parole de Dieu. C'est cette foi-là qu'il faut garder dans son cœur, cette foi fidèle, jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances de nos vies, les épreuves de nos vies, la foi qui fera qu'on pourra s'appuyer sur notre Seigneur jusqu'au bout, le servir, l'adorer. J'aime beaucoup le texte d'Hébreux 11, qui dit « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Jacob, un homme usé, fatigué, malade. Mais l'Écriture dit qu'il a rassemblé le peu de force qui lui restait. Et là, il s'est mis à adorer, appuyé sur son bâton. Que Dieu nous fasse la grâce ce matin de pouvoir l'adorer jusqu'au bout, de le servir jusqu'au bout. On ne sait pas quand l'heure du départ va arriver. Elle peut arriver très vite. Quelques-uns connaissaient mon beau-frère Jean Ribotti, les plus anciens le connaissaient. Il nous a quittés il y a quelques jours. Il avait 93 ans. Il était malade, fatigué, mais jusqu'au bout, il a aimé son Seigneur, il a adoré son Seigneur, il est très prêt à partir. Est-ce que ce matin, on est prêt à partir? N'est-ce pas dans cette perspective qu'on devrait vivre la Pâque aujourd'hui? On devrait vivre notre vie chrétienne tous les jours? Nous voulons nous rappeler cette parole, vous la mangerez à la hâte, c'est-à-dire dans la perspective du départ imminent. Alors, je ne sais pas si c'est ce message que vous pensiez entendre ce matin pour la Pâque. Mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire aujourd'hui. Quand vous mangerez le repas pascal, que vos reins soient sains, ayez vos chaussures aux pieds, vos bâtons à la main, vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Vous la mangerez dans la perspective d'un départ prochain. Sommes-nous prêts pour ce départ? Pour finir, je vais vous laisser juste deux versets, les deux derniers versets de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Bonne Pâques. Merci.